Radio Montmartre.
Bienvenue à la troisième de Radio Montmartre. Radio Montmartre est un cycle d'émissions réalisées en direct depuis différents ateliers d'artistes, de la cité Montmartre aux artistes dans le 18e arrondissement de Paris. Présentée et préparée par Antonio Contador, l'émission est produite et réalisée par Du. Aux commandes ce soir, Samson Staples. Le jingle, réalisé par Arthur Bécard, est le résultat d'une collaboration avec les enfants de l'association Momart, une association du 18e que nous remercions chaleureusement. Ce soir, nous sommes avec Pierre Paulin, artiste, éditeur de la revue La Robe, autoproduite, auto-éditée, auto-promue, et diffusée lors de ses expositions. Pierre nous accueille chez lui, dans son lieu de vie et de travail, ainsi que Florence Rodriguez, maquilleuse dans le cinéma, mode et télé, Tara Ullman, photographe, autrice, curatrice et ce soir voix de Lorin Piper Magazine, ou LP Magazine, personnage fictionnel, alter ego, voix intérieure, avec qui Pierre s'entretient sur différents sujets. Ces discussions à deux donnent corps à un certain nombre de numéros de son magazine La Robe, justement. Elisabeth Lebovici, curatrice, historienne de l'art et journaliste. Maxime Boidy, universitaire, spécialiste des études visuelles. Et Stéphane Steiner, curateur, critique et directeur de l'artiste Runspace, agence Voyage. Pierre ?
Alors, je vais me faire maquiller par Florence pour faire la photo de la dernière page de couverture du numéro final de la robe numéro 10.
On va commencer par le teint. Donc, je vais faire un travail d'éclaircissement du teint dans un premier temps. Je vais utiliser des textures liquides, des textures crème, des textures poudrées. On va bien éclaircir pour faire ressortir un maximum le contraste qui va être fait sur les yeux et les lèvres dans un second temps. Voilà, on va commencer.
J'ai rencontré Lorin Piper Magazine un soir pendant le confinement. Je me suis mise à parler avec elle comme si nous nous connaissions depuis des années. Elle est la doublure en soie d'une veste en contact avec la peau. Elle a l'âge variable, des gens qui m'entourent et que je rencontre. Toujours des femmes. Elle est Lucille, Léopoldine, Laszlo, Pauline, Patricia, Alice, Clémentine, Alix, Camilla, Tara. Je la rencontre partout, en soirée, en allant faire mes courses, en prenant le train, en regardant la télévision, sur Instagram. Et depuis notre rencontre, nous avons des conversations. Cette machinerie fonctionne d'abord en l'accueillant. Une ou deux bonnes bouteilles de vin suffisent. Si possible, un maconchintré de Philippe Valette. Ne rien manger pendant 2 jours revient au même. Aussi, il est préférable de trouver un endroit avec suffisamment d'activité autour, afin que cette méthode, faite de moods et de substances biologiques, n'attire pas l'attention. Le risque serait qu'une interruption brise le charme de la technique. Et surtout, il faut séduire Lorin Piper Magazine sans qu'elle s'en rende compte, comme si toute cette mécanique était commune, voire ennuyeuse. Porter de la lingerie fine est un plus pour se sentir élégantex, même si elle n'est vue de personne. À savoir, Lorin Piper Magazine pourrait tout à fait jouer le personnage d'un jeu vidéo en ligne dans lequel son rôle serait de nous aider à trouver notre chemin à travers un purgatoire modélisé en 3D. Bien évidemment, dans cette fiction, dont nous serions les héroïnes ex, Elle serait l'entremetteuse éditoriale de la plateforme, nous donnant accès au peu de liberté que l'on peut trouver sur le web. Porno gratuit, achat de stupéfiants en ligne, transactions dans le dos des États, messagerie cryptée et rencontres amoureuses. En somme, le meilleur comme le pire. Le prix de la robe numéro 10 fixé à celui d'un verre de vin convenable dans le bar le plus proche de lieu de vente. Mars 2022.
Là, je fais ma première couche. Donc, je fais avec un fond de teint liquide assez fin. Et ensuite, je vais augmenter la couvrance. Et on va partir sur vraiment essayer, en fait, d'effacer les traits pour en créer d'autres, pour féminiser, pour arrondir. Donc, je crée, en fait, une toile presque vierge. Et ensuite, je vais venir recréer des volumes avec des couleurs plus foncé.
Le vin te plaît ? Il est bon, oui.
Il est bon, oui. C'est quoi tes baskets ?
Mes chaussures ?
Oui.
Ce sont des Nike Deadheads. Pourquoi ? T'enregistres avec ton téléphone ?
Oui. Tu peux me décrire ce que tu portes ?
C'est important ?
Oui. C'est pour la discussion que je voulais faire, tu sais ?
Ah bon ? Alors, je porte une paire de jeans noirs taille US 8. C'est une taille au-dessus de la mienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté une paire trop grande, mais j'ai aussi un Levi's noir du rayon femme. Je préfère leur coupe. Et un t-shirt M ou L uni, en coton. Il est noir. Il est aussi trop grand. Je n'aime pas que mon t-shirt me serre.
Et ta casquette ?
Oui, et ma casquette.
T'as fait des copies de ces habits ?
Le jean, oui. Je l'ai fait reproduire.
Et tu as imprimé quelque chose à l'intérieur, c'est ça ?
Oui, mais c'est un peu téléphoné ton truc, là. Ok. Dans les poches de la copie de ce Levi's, j'ai imprimé une partie du texte intitulée « Ils glissèrent dans l'obscurité ».
Et pourquoi juste une partie du texte ?
Parce que le reste était imprimé sur le tissu des poches d'autres copies de ma garde-robe, elles aussi réalisées dans un tissu noir.
Tu veux dire que tu as imprimé un bout d'un même texte dans chacune des poches d'un ensemble de vêtements ?
Exactement. Dans un ensemble de répliques ou de copies de ma garde-robe fabriquées dans un tissu noir.
Noir parce que tu as utilisé plusieurs couleurs de tissu ?
C'est ça. Et chaque couleur correspond à un texte spécifique et le texte est toujours imprimé dans le tissu des poches.
Ok, mais ça reste un choix étrange. Généralement, quand on lit un vêtement, on lit un logo ou un slogan. Et c'est plus facile de lire un logo que de lire dans les poches d'un vêtement.
Oui, c'est plus facile de lire un logo qu'un livre.
Alors, pourquoi pas écrire directement un poème comme un logo ?
Ce serait une vraie tentative littéraire. Et ensuite, il nous faudrait écrire un roman à la manière d'un logo.
Ouais, mais un roman comme un poème, c'est déjà quelque chose qui a à voir avec un format resserré. Les deux sont des formats littéraires avec des contours bien définis, parfois trop définis, non ?
C'est pas faux. Mais le plus fou pour ma part, c'est qu'un logo peut nous donner l'impression de contenir tout un roman.
En tout cas, un roman est plus facile à lire qu'un mode d'emploi ou que la transcription d'une discussion dans laquelle on aurait retranscrit minutieusement tous les bruits de bouche.
Tu as raison. Mais à mon sens, un logo, c'est une compression du récit dans un format alors qu'un roman serait plutôt son expansion dans un format. Il y a quand même deux mouvements différents là, non ? Ce sont deux formats littéraires différents. La force narrative du logo est de comprimer une histoire et une identité en un seul signe, en un seul sentiment, nous permettant d'y accéder sans cesse en une fraction de seconde. Regarde le logo Nike de mes baskets. Il me permet d'accéder visuellement à l'identité de la firme sans que je sois mis en contact avec la réalité industrielle à laquelle celle-ci est indexée. Non ?
Ah, c'est pour ça que tu caches tes textes dans des vêtements ? C'est l'infrastructure que tu caches ? Le core de ton travail ? Enfin, de ta pratique de l'écriture ?
Je préfère dire que j'aime pousser les gens à fouiller dans mes poches.
Oui, mais sérieusement. Ton histoire de falsification, de ta garde-robe, c'est une façon de coder ton travail d'écriture à travers l'aspect visuel d'un look vestimentaire. Enfin, dans ton look, parce que ce sont tes vêtements que tu recopies, non ?
En tout cas, j'ai toujours aimé la dimension combinatoire à laquelle renvoie un look vestimentaire. Dans la mode, ce terme désigne l'assemblage de vêtements et d'accessoires qui est porté par un mannequin lors d'un défilé.
Oui, un look.
C'est ça. Mais un look, c'est aussi un ensemble de marchandises produites par un même couturier ou une même marque dont le but est de donner une certaine unité esthétique à un corps. Et ce n'est pas très loin de ce que font les artistes pour une exposition personnelle en galerie. À la fin, il s'agit d'un ensemble de marchandises dont l'assemblage produit une certaine unité. Tu ne crois pas ? C'est ça qui m'intéresse dans le vêtement, cet étrange travail qui tend à rendre ou à retrouver l'unicité d'une identité et d'un corps en agençant des fragments de période de l'histoire culturelle du vêtement, mais dans la vie de tous les jours.
Comment ça ?
Je veux dire que chaque matin, chacun de nous assemble aussi différentes marchandises. Un pantalon, une chemise, une veste, une paire de chaussures, tout ça. Nous en choisissons l'assemblage et ce n'est pas anodin. D'ailleurs, lorsqu'on écrit un poème, on fait à peu près la même chose, on invente rarement de nouveaux mots. On assemble un ensemble de mots déjà existants avec un sens qui nous préexiste, non ?
Tu veux dire que nous sommes nos propres couturiers ?
Oui, c'est un peu ça. Mais je dirais que nous sommes nos propres directeurs artistiques. Et surtout, tout ça, on apprend à le faire au sein de notre propre contexte culturel.
Notre propre contexte culturel, qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire que suivant le contexte dans lequel on se trouve et la culture dans laquelle on baigne, on peut être bien habillé comme mal habillé. Et je trouve ça essentiel et très important que personne ne puisse être universellement bien habillé. La robe, numéro 4. Un dialogue, donc, entre toi, Pierre, et Laurine Piper Magazine. Alors, une première question peut-être pour ouvrir finalement le projet, et peut-être une question piège parce que nous nous connaissons bien. Quelle est la dernière paire de chaussures que Laurine Piper Magazine a acquis ?
Ah je crois qu'elle est en train de s'en faire faire sur mesure. J'ai dessiné une paire de bottes qui va lui permettre petit à petit, par rapport à son histoire aussi, à pouvoir monter l'escalier Chanel. Et c'est la dernière paire de bottes, on va dire, qu'elle est en train de se faire faire, Laurine Piper Magazine.
Entendu, c'est l'escalier Chanel dont on reparlera un petit peu plus tard.
Exactement.
Effectivement, puisque un peu plus loin dans ce dialogue, donc avec Laurine Piper, cette entité avec laquelle justement tu es au contact, c'est un contact très très charnel, c'est un contact de peau, c'est un contact aussi ésotérique, puisque William Blake intervient finalement dans cette histoire. Effectivement, plus loin, il est déjà question de cette paire de chaussures qui est repérée durant, durant le dialogue, cette paire de chaussures d'occasion acquise à Milan et que tu souhaites photographier, alors même que Laurine Piper est en train de t'enregistrer sur un téléphone. C'est que finalement, ce dialogue visuel, ce dialogue qui est aussi finalement un peu radiophonique, d'emblée se matérialise autour du look. Et c'est autour du look finalement que beaucoup de choses sont dites dans ces premiers échanges. C'est ce look comme un ensemble de marchandises, c'est un ensemble de marchandises qui finalement voilà se pose à travers la mode, à travers la haute couture. Mais je sais aussi que la robe est quelque chose qui t'a intéressé pour quelque chose de beaucoup moins moderne au départ. Il y a eu des travestissements dans le passé, des travestissements dans l'histoire des luttes notamment. Tu t'es intéressé à ce mouvement en Angleterre au début du 19e siècle qui s'appelle le mouvement ludite, qui a très bien narré une historienne nommée Nathalie Zeman Davis, qui s'est intéressée à non seulement voilà cette lutte particulière, qui est une lutte qui a consisté justement pour les ouvriers anglais, les ouvrières à refuser une certaine histoire du travail industriel, mais c'est passé aussi par des formes de travestissement. Les hommes travestis en femmes pour pouvoir agir, pour pouvoir détruire des métiers à tisser. Et c'est des métiers à tisser qui servaient à produire du tissu, qui servaient à produire du vêtement. Et finalement, cette robe qui nous occupe beaucoup ce soir, finalement, elle a cette origine. Est-ce que...
Ce qui m'a beaucoup intéressé, en tout cas chez les ludites, quand ils s'habillaient ou se grimaient en femmes pour aller casser des métiers à tisser, c'est l'idée qu'il y avait une stratégie du look. C'est-à-dire que... Et je pense qu'il y a toujours une stratégie du look, quoi qu'on en dise. Et c'est important. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, là, c'était clairement défini... En tout cas, chez ces ludites, je me fais maquiller en même temps, donc j'ai du mal à... d'utiliser cette, de revêtir des robes en même temps, c'était vraiment ça, les images qu'on a, en tout cas les gravures qu'on a, c'est ça, de vêtir des robes pour être, et partir la nuit, casser aussi, mais il y avait une sorte, il y a la nuit qui était présente comme une sorte d'indice, qui produisait l'indistinction, à savoir si c'était des femmes ou des hommes qui allaient casser, on ne savait pas qui allait casser ces métiers à tisser. Et là-dedans, il y a une image assez extraordinaire, c'est-à-dire que le look un peu permet, en fait, de voiler l'identité aussi. Et l'identité qu'on veut voiler, en tout cas pour les ludites. Et de produire l'indistinction en ne sachant pas qui. Une femme est allée casser, est-ce qu'une femme est allée casser les métiers à tisser? Et ça fait aucun sens qu'une femme, en tout cas à cette époque-là, ça faisait aucun sens, c'est une stratégie, parce que les ouvriers étaient en partie des hommes qui travaillaient sur ces métiers à tisser. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'a beaucoup intéressé, pour la robe, en tout cas. Mais il y a aussi d'autres robes.
Il y en a d'autres.
Oui, il y a la robe de chambre.
Oui.
Qui est pour moi très important, parce que c'est un lieu où on travaille, à l'intérieur. Et il y a aussi la robe qu'on porte quand on rentre dans les ordres. Et cette robe-là aussi m'intéresse beaucoup, parce qu'elle a quelque chose de l'ordre de l'engagement. Et publier, c'était pour moi quelque chose de cet ordre-là aussi. S'engager, parce que c'est long, publier. Plus, on n'en a pas parlé, mais la robe, elle est bilingue. Donc il y a aussi tout un travail fastidieux. De traduction, de mise en page,
d'élaboration éditoriale.
Exactement.
C'est intéressant cette idée de stratégie du look, parce que justement, c'est vrai que c'est révolte. Il y a les ludites, mais il y en a d'autres. Il y en a en France. Mmh. On en connaît, notamment en Ariège, vers 1830. On a parlé d'une guerre des demoiselles. C'est justement des mouvements ruraux qui sont, opposés à des privatisations des communs. Ce qu'on pourrait appeler ça comme ça. C'est-à-dire les forêts, un certain nombre de propriétés, finalement, sont retirées aux populations. Et c'est une manière concrète de venir lutter, finalement, de lutter aussi par le look. Ce qui est intéressant dans ce dialogue avec Lorine Piper Magazine, c'est comment on voit couche après couche finalement se déployer cette stratégie du look. Pas forcément simplement sur le mode d'une stratégie de combat, même si le noir est une couleur qu'on a croisé dans ce dialogue, et on sait qu'on se vêtit de noir en manifestation encore de façon régulière aujourd'hui pour lutter. Donc finalement, ça crée cette forme de densité. Mais finalement, cette stratégie du look, on la retrouve aussi à d'autres endroits. Il y a un endroit Chanel, moi, qui m'a intéressé, qui est le 31 rue Cambon, c'est-à-dire le moment finalement qui n'a pas été lu, mais qui est un peu ultérieur, où se pose cette question du logo, au-delà du look, qui est un autre endroit qui t'a beaucoup occupé. Comment est-ce que finalement, ce logo Chanel sur des sneakers, sur des baskets, est un logo très géographique aussi, puisqu'il pointe la localisation de la première boutique, Chanel. Moi, ça m'a touché pour plusieurs choses, c'est-à-dire c'est vraiment un logo géographique ou spatial, c'est-à-dire ça permet de situer dans l'espace finalement où est-ce que le look se situe. Et c'est le moment où j'ai repensé aussi à ta passion pour le hip-hop, à ce qui apparaît un peu plus loin pour Run-DMC, notamment avec My Adidas, avec une autre connexion avec les sneakers, mais c'est plutôt à l'endroit de Public Enemy et de Flavor Flav, avec cet autre logo peut-être qui est iconique du hip-hop, avec cette pendule finalement qui est un logo temporel d'une certaine façon. C'est-à-dire comment est-ce que le streetwear contemporain est aussi quelque chose qui accompagne ta réflexion jusqu'à finalement redécouvrir des mécanismes plus profonds dans l'histoire de la mode et peut-être de Chanel et de figures particulières qui t'ont beaucoup occupé.
Alors le logo, je suis un enfant des années 90. Et c'est vraiment l'explosion du sportswear, ce qui m'a plus intéressé. Enfin, je traite de pas mal de logos différents, mais c'est l'usage massif des logos et son usage pour les jeunes gens comme un moyen d'appartenance à la communauté auquel ils voulaient faire partie. Moi, j'ai été très très marqué par par le fait que moi aussi j'ai désiré ces objets qui étaient faits de logos et marqués de logos. Donc c'est de là que mon intérêt s'est positionné, même sur l'histoire du hip-hop dans les années 80, c'est que je me suis intéressé à cette histoire, c'est tout. Parce que c'est l'histoire du logo, je me suis intéressé à l'histoire du logo, plutôt qu'à des périodes.
Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a quand même, dans les années 80, pas mal d'artistes qui commencent à utiliser des logos. C'est-à-dire signés par logo. Je pense à General Idea, par exemple. Ouais. C'est un trouble qui produit des choses, enfin, qui s'intéresse beaucoup à la production de la marchandise. Et donc, il produit aussi des peintures qui sont juste le logo, le copyright, quoi. Mmh. Donc, je crois que ça rejoint aussi, tu dis, t'es un enfant des années 90, mais il y a la mode d'un côté, et puis il y a aussi le monde de l'art qui commence à s'intéresser sur, disons, tous ces intermédiaires qui jouent dans la production de la marchandise.
Me semble-t-il. Oui, mais c'est marrant parce que je pense que j'ai beaucoup regardé ça, mais c'est le... j'ai pas vraiment utilisé de logo dans mon travail d'artiste. En revanche, j'ai beaucoup parlé du logo dans la robe. C'est un des endroits où, parce que pour moi, dans le logo et à un moment dans le texte qui a été lu juste avant, il y a une obsession, c'est-à-dire quel est cet objet d'un point de vue littéraire. Qu'est-ce que c'est qu'un logo d'un point de vue littéraire, quoi. Et même ce que c'est que cette littérature, en fait, dans le monde réel. Peut-être s'il y avait une littérature qui pourrait survivre aujourd'hui de partout et qui survit dans l'espace public, c'est le logo. Et c'est pour ça qu'à un moment, dans la discussion, il y a cette chose un peu où on dit pourquoi pas écrire un poème comme un logo ou même un roman comme un...
C'est pour tout, hein.
Mais c'est intéressant, comme un logo. C'est aussi la question, comme tu disais, par rapport à General Idea, par exemple, est-ce que le logo, il est créé pour être logo, ou est-ce que quelque chose peut devenir logo, notamment là, le fameux Robert Indiana avec le AIDS. Mm. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un logo? Est-ce que c'est la dissémination et la reconnaissance en tant que logo qui le construit, ou est-ce qu'il est déjà pensé comme logo?
Alors c'est un des endroits où il y a forcément une histoire culturelle qu'on doit soulever, parce que quand on se pose la question d'un logo, c'est qu'à un moment le logo il est interprété, et que ces interprétations elles sont orales, et elles se passent de personne en personne, on raconte l'histoire, puis aussi on se fait une idée. C'est-à-dire, il y a la publicité autour qui vient charger ce logo, il y a les gens qui portent, il y a les personnes publiques qui sont invitées à porter ces logos, comme Michael Jordan, qui est probablement une des personnes qui a su même faire un logo à son effigie en étant en relation avec une marque de sportswear. Donc c'est pour ça que dans la discussion il y a cette question à savoir est-ce qu'il n'y a pas déjà finalement tout un livre ou toute une nouvelle à écrire dans un logo déjà. En fait, elle l'est en potentiel en tout cas.
Ça donne aussi des... Il y a des enjeux peut-être moins cordiaux, pour le dire de cette façon-là, que le dialogue, qui est quand même très beau, très intime, avec alors une Piper Magazine, l'histoire des frères Dassler, où on réfléchit justement dans l'histoire d'Adidas, voilà, cette question d'un uniforme militaire, finalement, c'est... Voilà, ces joggings qui sont finalement très très martiaux dans leurs trois bandes et qui finissent par devenir logo, alors même qu'ils emportent aussi cette trajectoire profonde. Enfin.
Il y a en fait, c'est aussi cette histoire qui m'a beaucoup intéressé dans le logo, c'est qu'il y a une histoire en fait des armoiries familiales, c'est-à-dire de la question de la filiation par le père et l'inscription des propriétés. C'est l'histoire ancienne du logo où on marquait les bêtes. Et puis peu de gens pouvaient se targuer d'avoir un logo. Après, il y avait toute l'histoire des trousseaux, c'est-à-dire on brodait le trousseau, mais du nom de l'homme au moment du mariage. Il y a cette chose-là qui m'a toujours beaucoup travaillé et que j'ai tenté, en tout cas dans les discussions, mais aussi aidé par Laurine Piper, de retracer. Et aussi, parce que, en fait, dans l'histoire du sportswear, avec Adidas, la marque Adidas, ce logo-là, il vient inscrire une lutte fratricide et aussi une sorte de volonté d'émancipation de l'usine familiale de produire des chaussures aussi pour la Wehrmacht. Il y a cette histoire-là louche, il y a cette histoire guerrière, puis il y a l'histoire du sport aussi qui représente quelque chose de la forme guerrière qui m'a intéressé en tout cas.
On continue avec les yeux. Donc là, j'ai terminé un peu ma construction du teint. Et je vais venir d'abord travailler les sourcils. Une fois que le teint est travaillé, donc ça veut dire que j'ai fait ma toile et j'ai retravaillé un petit peu mes volumes. Donc je suis venue un petit peu sculpter le visage. Donc j'ai remonté un petit peu la pommette et je suis venue avec une couleur assez flash, un peu un fuchsia avec une pointe de rouge sur le bombé de la joue pour vraiment arrondir ce visage et créer quand même des contrastes importants. Donc on est vraiment sur une base très claire du teint et un blush assez fort. Pour les yeux, je vais faire un travail d'eyeliner. Donc encore une fois, des contrastes très forts, donc une ligne très forte avec un contraste au max en noir. Et pour augmenter ce contraste, je vais faire un mélange de crayon d'abord, comme ça je dessine la forme, je vais étirer les yeux, je vais les allonger, et je vais aller vers le haut. Et après je repasserai dessus avec un feutre, cette fois-ci, pour vraiment augmenter et faire quelque chose d'assez graphique.
Et tu portes tes baskets pour travailler à l'atelier, c'est ça ?
Oui, j'aime bien mettre mes TN, c'est quand même plus confortable pour rester debout toute la journée.
Du coup, lorsque tu travailles, tu portes des Nike.
C'est ça, mais aussi d'autres marques.
D'autres marques de sportswear ?
Tout à fait.
La dernière fois, on a beaucoup parlé du cuir et de son histoire culturelle.
Mm-hmm.
Enfin, on a parlé de la symbolique de la peau animale transformée en marchandise, en chaussures de femmes notamment.
Oui.
Mais on n'a pas abordé le fait que les chaussures masculines sont aussi faites en cuir et ont, du coup, les mêmes problèmes symboliques avec l'élevage animal.
Oui, mais si tu veux parler de mes TN, ça marche pas. Elles sont en nylon et en PVC.
En PVC, mais avec un logo dessus.
Oui.
Et ça, c'est quand même un truc masculin.
Mmh.
Le logo, l'inscription, le signe d'appartenance qui ressemble à des armoiries du propriétaire terrien.
Mmh.
Enfin, tout ça pour dire que le logo se rapproche dangereusement des initiales du propriétaire.
Ça va vite pour moi là, mais d'accord, je crois que je commence à voir où tu veux en venir.
Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a une relation entre la chaussure de sport et la virilité, entre le logo de marque et la patrilinéarité.
Mmh.
D'ailleurs, j'ai lu ton texte sur le logo, on en avait déjà parlé. Tu y évoques l'histoire du sportswear et tu y fais une analogie entre le logo et le signe de ponctuation.
Ce texte commence à dater maintenant, mais t'as raison, je parle des logos comme des signes de ponctuation qui produisent des arrêts dans notre lecture du monde, enfin du monde visuel.
C'est ça. Et tu y fais aussi une analogie entre une paire de baskets et l'idée du territoire en disant quelque chose comme « une paire de baskets, c'est avant tout là et où on met les pieds ».
Oui, et je parle du fait que aujourd'hui tout le monde porte des baskets dans la rue, tout en remontant à l'origine de la mode du sportswear qui débute dans les années 80 à New York.
Tu y parles aussi du Run DMC et de Michael Jordan.
Oui, je fais un lien entre la mode globalisée du sportswear et le fait qu'à l'origine, cette mode a été un enjeu de visibilité pour les minorités noires américaines.
Ouais, tu y replaces les sneakers dans son contexte culturel et politique de l'époque.
Oui, en tout cas, l'apparition des sneakers dans la mode est intimement liée à l'histoire des quartiers pauvres de la périphérie new-yorkaise.
Mm-hmm.
C'est de là que vient le look B-boy. Ce sont des jeunes afro-américains qui se sont mis à porter des chaussures de sport à la manière des prisonniers de Rikers Island, c'est-à-dire longues de sortie et sans lacets.
Et il y a aussi le séisme culturel déclenché par Michael Jordan.
Exactement, et avec Jordan et la mode B-boy, la basket devient une sorte d'étendard culturel.
C'est ça.
Enfin, dans mon texte, je répète en partie ce que j'ai lu à propos de cette histoire. Et j'y parle surtout de la gêne que je ressens à chaque fois que j'achète une paire de Nike ou d'Adidas.
La gêne ?
Oui, enfin, le sentiment que ce moment d'histoire a été transformé en marchandise.
Voilà, c'est tout à fait ce dont je voulais parler. En tout cas, la dernière fois, après notre discussion à propos de la peau animale transformée en marchandise, en bottes de femme, je me suis dit qu'il se jouait quelque chose d'aussi étrange entre la masculinité et les logos qui apparaissent sur nos baskets.
Ok.
Je me suis dit qu'un logo lie ceux ou celles qui les portent à une même identité, à une même lignée masculine, industrielle.
Je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais l'apparition du logo a effectivement à voir avec les manufactures tenues par des hommes qui se sont mises à signer leurs marchandises. Des manufactures qui étaient historiquement des entreprises familiales bourgeoises.
Tout à fait. Le logo sur une paire de baskets a à voir avec la famille, la propriété et le nom du père. Et avec une pratique barbare qui consistait autrefois à marquer au fer rouge les animaux des initiales de l'homme qui les possédait. Un logo, ça a à voir avec la distribution des rôles genrés dans notre société, ça a à voir avec le fait qu'en général, on porte le nom de son père et qu'autrefois, les biens du père revenaient au fils.
Sincèrement, je n'y avais jamais pensé, mais le logo d'une paire de Nike, c'est un reste de notre culture patriarcale, un reste qui revendique la primauté du sperme sur l'ovule dans l'écriture de la descendance.
Oui, le logo, c'est une histoire entre mecs, pour les mecs.
Oui, mais une histoire de mecs dans laquelle ils ne sont pas tous égaux. Pour en revenir au cas des baskets portées par les gars du Bronx ou de Brooklyn dans les années 80, la notion de propriété et de domination devient toute relative.
C'est vrai, dans ce cas, une paire de baskets avec un logo peut être une hétérotopie, un lieu de lutte qui leur a symboliquement donné accès à ce que la société américaine leur refusait, une terre, un territoire clanique dont ils pouvaient revendiquer l'appartenance et la paternité. Et ce n'est pas rien. Comme dans ton texte, une paire de baskets, c'est avant tout là où on met les pieds.
Wow, Pierre, ça devient de plus en plus beau. Voilà, on continue en quelque sorte les extraits ou le dialogue qui a été lu avant par Tara toujours et toi, Maxime. Et puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, parce que il y a cette notion, et puis je trouve que Laurine et toi, vous voyez assez juste un peu de d'une espèce de la descendance patriarcale, le nom du père, le marquage. Mais est-ce qu'on pourrait pas percevoir toute cette appropriation des logos par notamment la culture afro-américaine comme quelque chose aussi en quelque sorte positif? Est-ce que en alignant ça un peu avec l'usage que le capitalisme en a fait, on fait pas abstraction ou on répète pas un geste un peu adornien où on distingue culture U, divertissement et culture E, sérieuse? Ou je sais pas si tu connais notamment les travaux par exemple de ce John Fiske, un peu inspiré aussi par De Certo. Est-ce que c'est pas aussi une stratégie, une appropriation de ces logos, de ces marchandises pour créer quelque chose de valable, même si ces marchandises elles-mêmes sont peut-être problématiques dans leur conduction de production? Comment tu vois ça?
Je suis plutôt d'accord avec toi. Alors là, la question, c'était avec Laurine, on a beaucoup discuté de ça parce que j'essaye surtout de m'expliquer quelque chose à moi, cette histoire. C'est-à-dire pourquoi, à 15 ans, j'ai eu l'impression que mon intégration dans le monde a dû passer par le logo. Et après, j'ai fait effectivement un petit peu... Là, on fait un peu avec Laurine, on a beaucoup parlé de cette histoire-là pour essayer de la comprendre, d'où ça vient. Mais effectivement... L'usage, la stratégie du look existe chez les ludites, chez les Noirs américains dans les années 80, chez beaucoup de gens. Le look, c'est pas, c'est quelque part, je parle plutôt du pouvoir et de cette inscription, de l'histoire de cette inscription, des armoiries. Finalement, ce qui est revendiqué a aussi quand même une histoire, donc c'est double. C'est pas si clair ce qu'est un logo. En tout cas. Là, c'est la partie la plus qui parle de ça, de cette histoire de culture, en tout cas de cette histoire même du logo de sportswear. Mais il y a une partie où dans la discussion, on parle vraiment plus de ce que c'est qu'un logo d'un point de vue linguistique. Et dedans, j'imagine que le logo est un système d'insémination artificielle linguistique. C'est plutôt de ça dont il s'agit dans ce texte-là. Et Je comprends qu'on puisse utiliser un logo et surtout, j'ai aucun problème avec le fait, moi-même, je porte des baskets à l'atelier, je le dis dans la conversation, avec des logos dessus. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse y réfléchir et de se poser la question, qu'est-ce que c'est d'un point de vue, d'un point de vue linguistique, qu'est-ce que ça pourrait être? Et comparé à tous les autres types de littérature, si on avait, peut-être un logo n'est pas de la littérature, des personnes diraient ça, mais j'ai imaginé que ça pouvait en faire partie, en tout cas. C'est que c'est une forme textuelle qui se lit et qui embarque un signe, en tout cas du sens, de manière si forte que j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de comprendre ce que c'était. Et encore une fois, moi j'y vois un signe quasiment magique, kabbalistique, dans lequel est codé quelque chose. Il y a quelque chose de... la discussion avec Laurine, au fond, ce travail est quasi d'esthète, comme on pourrait faire l'exégèse d'un texte sacré. Il y a un truc de cet ordre-là dans ma manière de le travailler, en tout cas. Et d'essayer d'en faire une analyse, quoi. Je ne sais pas si j'avais répondu à ta question.
Si, tout à fait. Ce que je trouvais intéressant, parce qu'aujourd'hui, tu ne portes pas des TN, mais tu es une des seules personnes que je connais qui s'est appropriée cette marque de chaussures italiennes qu'on voyait très fréquemment dans les années 2000, dans les villes balnéaires italiennes, les Hogan. Comment ça se fait-il? Qu'est-ce que tu as inséminé par là?
C'est une vraie stratégie du look. Je suis sûr que personne ne les porte.
À côté de quinquagénaire et
voilà, parce que les personnes qui portent ça sont plutôt des hommes qui ont, et des femmes qui ont entre 60 et 80, ouais, 70 ans. Par ailleurs, je les trouve très bien, mes chaussures.
Moi aussi. Très bien. Comment conçois-tu le rapport? Parce que je me suis aussi demandé, mais en effet, c'est beaucoup plus complexe que un peu ma lecture que j'ai faite en lisant ce texte. Mais est-ce que un peu l'opposition qu'on pourrait avoir à l'égard du logo, est-ce que c'est pas aussi une espèce de pureté moderniste, un peu à Adolf Loos? Est-ce que le logo, c'est pas un ornement ou c'est pas nécessairement un crime de porter un logo, non?
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. oui, il y a j'en parle plus loin, mais il y a toute cette histoire de la guerre, des frères Dassler dans ce texte après qui vient et du fait qu'ils aient produit les chaussures des militaires, la marche au pas des Allemands nazis. Le son à avoir avec la manufacture familiale des frères Dassler. Moi, je l'imaginais comme ça, en tout cas. Il y a quelque chose de l'insigne militaire aussi, de ce dessin-là, d'un dessin qu'on peut reconnaître dans des moments de violence, parce que c'est ça aussi les insignes militaires et les drapeaux, et on les reconnaît très très vite. Mais c'est aussi cette fulgurance-là dans un monde où il y a, en tout cas dans un espace public sans guerre déclarée, c'est ça aussi qui m'a intéressé. C'est quelle est cette technologie du logo, et je pense que c'est une technologie au fond militaire, oui. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Même une technologie d'assimilation linguistique militaire.
Davantage militaire que religieuse, par exemple.
Ça dépend. Je pense qu'on n'est jamais trop loin de l'un de l'autre.
Okay. Merci beaucoup.
Il y a peut-être aussi un certain rapport à la critique dans ton travail qui est en train de se préciser à travers les échanges qu'on a, c'est-à-dire la manière dont tu t'empares d'une forme de pensée critique ou d'un type de geste critique. Pour être clair, en fait, on parle de marchandise, il y a une forme de marxisme peut-être qui qui existe aussi dans ton travail, dans la manière de réfléchir, dans la manière de dialoguer avec Lorraine Piper. C'est finalement une certaine façon de s'emparer de la critique, de s'emparer d'un certain nombre de mots de la critique sans véritablement vouloir être démonstratif. C'est-à-dire la marchandise, tu parlais de signes à interpréter juste avant, c'est Marx parle de hiéroglyphes sur la marchandise. Mmh. C'est un secret, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à décoder, ou en tout cas on peut pas claquer dans les doigts et avoir une réponse immédiate. C'était déjà vrai pour lui, c'est peut-être moins vrai pour un certain nombre de gens qui l'ont lu, mais on retrouve aussi un peu cet enjeu d'une inquiétude dans la façon finalement de regarder les formes et de vouloir différer d'une certaine façon la réponse, c'est-à-dire de se donner véritablement un temps d'enquête assez long. Il y a peut-être un arrière-plan aussi dans l'iconographie, dans des champs qui me sont plus familiers, autour du logo Adidas, autour de la chaussure, mais peut-être pour t'entendre à cet endroit-là, c'est finalement cet enjeu de la critique, cette manière finalement de dire ou d'énoncer. Comment est-ce que tu te...
Il y a deux choses. La première, c'était l'histoire comment j'ai utilisé l'idée du look. Il y a quelque chose de combinatoire. Et le look, c'est une technologie, ou une technique de l'esquive. J'ai toujours pensé ça comme une technique de l'esquive. Donc, pour répondre à ta question, Lorraine Piper m'aide à pratiquer l'esquive. Ça, c'est évident. Et la question du logo, elle est liée à la question du look. Donc, c'est toujours compliqué de penser ce qu'est un objet... ou une marchandise avec un logo. Et d'autant plus compliqué que si on fait un travail, moi j'ai pas tout lu Marx, mais si on fait un travail un peu matérialiste sur ce qu'est une marchandise, d'où elle provient, comment elle est, quel est son prix, comment qui la fabrique, qui la vend, etc. Si on fait tout, il y a un moment où il parle de ça, Marx, il parle d'une table, il dit ça serait encore plus fou quand on commence à imaginer d'où vient cette marchandise, qui l'a fabriquée, qui fait de l'argent, avec quel bois elle est produite cette table, qui sculpte le bois, qui l'achète, qui fait de l'argent, tout ce que fabrique une marchandise, ça devient tellement habité qu'il parle d'une table qui se met à marcher tout seul. Et je crois que c'est à cet endroit-là où il y a quelque chose d'un peu fou, il décrit qu'il y a quelque chose de fou dans la marchandise de notre monde. Il y a quelque chose, et je crois que l'espace, en tout cas, de littéraire avec Lorraine Piper, magazine, c'est cet espace-là pour parler de cette folie, et pas tellement y répondre. Convoquer des moments d'histoire, des moments de culture, mais pas vraiment répondre de manière tranchée sur les choses, et plutôt essayer de voir à quel point il y a des moments de vertige, il y a des moments de folie de l'histoire, mais il y a aussi des moments de joie dans l'utilisation du look. Voilà.
Si je me souviens bien, il est question chez Marx de table tournante.
Mais c'est table tournante, hein? C'est ça.
Et voilà.
C'est pas marchande.
Eh oui, et c'est quand même pas rien, quoi. Ouais. Et table tournante, hein, on passe. Alors là, c'est aussi ce vertige qui est que tu fais passer du tableau, en tant qu'artiste, à la table, et à la table tournante. Qu'est-ce que tu peux dire de cela ?
Ben, j'aime bien l'idée. Enfin, la forme ésotérique, je pense qu'elle appartient à beaucoup de gens qui aiment la mode. Je crois que c'est pour ça que c'est une question passionnante, c'est-à-dire qu'on peut pas trancher. Je pense que c'est étonnant de voir à quel point il y a des créateurs géniaux, il y a des créateurs qui font des marchandises, c'est sûr. Il y a des gens qui prennent des qui arrivent à prendre certains accessoires et à se faire un look d'enfer avec peu de choses. Il y a des personnes qui arrivent à porter des choses importables et qui les portent bien. Voilà, c'est compliqué en fait cette question de la visibilité de cet assemblage qu'est le look. En fait, c'est magique, c'est ce qu'on aime chez les gens. Il y a une forme de poésie, il y a une forme de personnalisation si forte qui active. Qu'on peut en saisir, ben, c'est comme là, en fait, porter. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles, au départ, on commence dans la première conversation, je fais copier mes vêtements, parce que l'ensemble d'un look, et pourquoi j'en parle avec Lorraine, et que j'ai besoin d'avoir une discussion avec elle, c'est pour parler de ça. C'est à quel point, en fait, il y a dans l'assemblage du look quelque chose qui est de l'ordre de l'art, et possiblement ce qui m'intéresse plus dans l'art. Pour revenir sur le tableau et la table.
ce qui me manquait un tout petit peu comme référence, mais je ne sais pas si tu vois le personnage de Dapper Dan, qui dans les années 80, bien avant la logomania, c'était le premier qui a volé les logos des marques de luxe comme Fendi, Louis Vuitton, et qui a fait des vêtements pour un peu des stars de la communauté afro-américaine. Après, il a eu des procès de la part de Fendi, et en 2017 ou en 2016, lors d'une collection, on a copié un de ses designs, Gucci, et en 2017, suite aux attaques que Gucci a subies, de l'avoir approprié, ils ont lancé une capsule, une ligne ensemble, quoi. Donc ça montre bien un peu cet aller-là entre, ouais, qu'il y a un peu aussi entre le système marchand au capitalisme de distanciation et d'appropriation, quoi.
C'est difficile de trancher. Ouais, c'est juste... ouais. Oui, tout à fait. C'est...
On passe aux lèvres ?
On passe aux lèvres.
On passe aux lèvres. Donc, le teint est fait, les yeux sont posés. Je vais sûrement y revenir après. Là, je vais faire un travail sur les lèvres. Tout le travail, là, il est assez contrasté. Donc, on a fait une base très claire, des yeux très foncés, une joue bien posée, bien tranchée. Et les lèvres, on est dans la même lignée. Donc, on va faire une bouche rouge. Une bouche rouge un peu exagérée. Le fait que... j'ai un petit peu effacé les traits de pierre avec mon fond de teint, fait que je peux me permettre de redessiner une bouche un peu plus pulpeuse, avec des lèvres un peu plus grandes, un peu plus rondes. Et je vais faire ça au crayon d'abord, et après je vais recouvrir avec une texture de rouge à lèvres classique, en bâton ou en crème. C'est parti. Il va falloir plus parler là.
Pas faux. J'ai toujours adoré ce que dit Walter Benjamin à propos des prostituées. Il parle du fait qu'une prostituée est la seule marchandise à pouvoir donner son prix.
Ça me dit quelque chose, oui. En tout cas, c'est intéressant de se dire que lorsque Benjamin vivait à Paris, certaines femmes de la haute bourgeoisie portaient déjà du Chanel numéro 5.
Je viens de tilter. La marque Chanel est tellement partout, dans les paroles de morceaux hip-hop, dans la rue, sur les panneaux publicitaires, que j'en ai oublié que Coco Chanel était une contemporaine de Benjamin.
C'est ça. Moi, je me rappelle avoir lu de lui qu'une prostituée qui racole, c'est une personne qui mime la marchandise.
Oui, qui la performe, qui la met en scène. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de l'escalier que Gabrielle Chanel a fait recouvrir de miroirs au 31 rue Cambon.
Tu m'en as touché deux mots, oui.
Cet escalier reliait sur 3 étages son lieu de vie, son lieu de production et son lieu de vente.
Elle vivait au-dessus de ses ateliers de confection et de son magasin, c'est ça ?
Oui. Et justement, les miroirs qui recouvrent les murs de l'escalier mettent en scène par un jeu de reflets le circuit d'une production Chanel, d'une marchandise Chanel.
Comment ça ?
Le miroir disposé sur les murs, sur les pans courbes de l'escalier, reflète ce qui se passe dans les étages et permet de les faire communiquer visuellement.
C'est un appareil visuel, ton truc.
Oui, un appareil ou une interface qui permettrait de relier par la vue le trajet d'une marchandise Chanel. De la conception de la marchandise dans les appartements de Madame, au 3e, à sa réalisation dans les ateliers du 2e, en passant par son exposition dans le salon des défilés au 1er, jusqu'à sa vente dans le magasin au rez-de-chaussée.
Je n'avais pas compris que c'était à ce point. Tu m'avais pas dit que cet escalier avait un précédent aussi ?
Ouais, et pas des moindres. L'une des maisons closes les plus chics de Paris au début du siècle, où l'aristocratie européenne et les dignitaires d'État avaient leurs habitudes, le Chabanais.
Un bordel pour les hommes de pouvoir.
C'est ça. Et justement, dans cet établissement, l'escalier de réception recouvert de miroirs desservait aussi les étages.
Comme celui de Chanel.
Oui. Seulement là, la marchandise est clairement la femme elle-même et non ce qui l'habille.
C'est donc ça, nu descendant l'escalier. Un saccadé de reflets d'une prostituée qui descend l'escalier du Chabanais.
Je ne sais pas, mais pour les dates, ça correspondrait. Le Chabanais a reçu une médaille de l'exposition universelle de 1900 pour l'architecture d'intérieur d'une de ces chambres recouvertes de miroirs, et ce lieu a fasciné beaucoup d'artistes. Lautrec y a peint du mobilier.
Tu crois pas que cet escalier avait plutôt pour fonction de théâtraliser l'accès aux prostituées, de rendre magistrale la descente des filles des salons supérieurs ?
Exactement. Un peu comme Chanel qui, pour présenter ses collections, demandait à ses modèles de descendre son escalier de l'atelier de confection au salon de défilé.
De mettre en scène le client lui-même, de lui permettre de se voir, accéder au corps d'une femme ou aux vêtements. Comme on dit aujourd'hui dans le marketing, c'est l'expérience produit qui compte.
Alors, moi j'aime beaucoup ce fragment de la robe 8, parce que, évidemment, c'est absolument formidable. Hein. Elles mettent en lien, effectivement, le salon l'architecture de la couturière, l'architecture du bordel et la peinture. Donc, effectivement, là, tout d'un coup, il y a quelque chose d'absolument fantastique. C'est, pour moi, alors là, on parlait de relation à la critique tout à l'heure. Hein. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se produit hein, d'un discours critique. De mettre les choses en relation, pour moi, c'est ça, le discours critique. Mais alors, j'aimerais bien, justement, d'abord savoir pourquoi, enfin, comment ces réflexions sont nées, comment ces associations naissent pour toi, puisque c'est toi qui les fais. Et comment tu les réalises ?
Il y a une chose toute simple, c'est que j'ai commencé par faire copier toute ma garde-robe. Je pense que c'est le geste le plus fort que j'ai fait. Et puis après, je me suis intéressé au miroir, parce que c'est l'endroit où on se regarde quand on a des habits. Et je crois que c'est aussi simple que ça au départ. Puis il y a une fascination qui est née pour l'histoire. J'aime l'histoire de la mode, donc je lis dessus. Mais qui s'est simplement déplacé petit à petit vers Chanel, et aussi parce que une des couturières qui reproduisait l'ensemble de ma garde-robe travaillait pour la maison Chanel. Donc c'est devenu petit à petit, je dirais, un endroit de projection, de fantasme. Et cette personne vivait exactement le même endroit que moi. Donc moi, quand j'allais à l'atelier, elle allait chez Chanel. Et du coup, elle copiait mes pièces, et aussi des fois, elle embarquait des pièces qu'elle finissait entre midi et deux chez Chanel. Donc, à un moment, quand j'ai compris que une partie de ma garde-robe était copiée avec les machines Chanel entre midi et deux, ce moment de pause, et c'est arrivé avec d'autres couturiers avec qui j'ai demandé de copier des pièces de ma garde-robe, il y a un imaginaire qui s'est ouvert. Je veux dire, je me suis posé la question. J'avais l'impression de faire copier, faire des faux, des faux de ma garde-robe, en utilisant dans un rapport interdit l'outil de production d'une marque, quoi. Et il y avait tout ce désir de comment était produit mon travail. Qui s'est amplifié à savoir comment on produisait des objets dans la mode, et puis il a des discussions, etc. Et très vite, Chanel, c'est devenu... cette histoire-là, le 31 rue Cambon est devenu un objet d'obsession, parce qu'il y a tout ce qui définit, au fond, une pratique aujourd'hui... elle vivait dans ce lieu, donc c'est ce qui est un peu dit, c'est là où elle pensait. Il y a l'endroit où il y avait l'atelier de production avec toutes les couturières, ça c'était juste en dessous d'où elle vivait. Et puis il y avait le salon des défilés pour les personnes qui avaient le moyen de se payer cet attirail, et ça c'était au premier étage. Et tout ça est lié par un seul et même escalier pour arriver à l'endroit du rez-de-chaussée où on vend les goodies. Il y avait tout un système à la fois de distribution et un rapport visuel, c'est-à-dire que le désir que produit cet escalier pour beaucoup de gens, tout le monde se photographie dedans, qui était si proche de cette chose très étrange qui est le Chabanais, parce que je me suis beaucoup intéressé aussi à 1901, parce que c'est l'année où la soupe Campbell a son sa médaille d'or qu'on reconnaît. Donc ça m'a permis de lier un moment Andy Warhol au Chabanais, à Chanel. Il y avait toute une triangulation qui était assez goûteuse.
Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce passage, c'est à la fois que tu produis un discours sur non seulement sur la production, mais la monstration, puisque effectivement ce qui lie aussi la maison Chanel, le Chabanais et l'art, c'est que voilà, il y a un lieu de monstration, il y a un système de monstration, et tu en fais parcourir tous les étages d'un certain point de vue. Alors ça, je trouve ça très très intéressant. Je pense aussi que c'est ce moment où ce dont tu parles, 1901 par exemple, ça me fait irrémédiablement penser par exemple au travail de Loïc Fuller, hein, qui produit non seulement de la danse et des gestes et une certaine façon de danser avec des accessoires, des longues baguettes, etc., mais et de danser avec des robes, et que ces robes soient le principal lieu finalement de la production de la danse, et pas et cachent un corps puisqu'il le montre, enfin puisqu'il ses plis font des figures, mais aussi elle produit pour la première fois des éclairages, un sol éclairé, des systèmes de réverbération finalement de la lumière, des systèmes des colorations de la lumière, puisqu'elle utilise aussi des lumières colorées, elle est je crois l'une des premières, et en plus elle prend des brevets. Donc elle se confronte à la société de la marchandise, à la société industrielle, etc. Et donc pour moi, ce texte, il met en marche tout ce tissu là. C'est le cas de le dire, finalement.
Mais je ne sais pas si, au fond, toute cette trajectoire avec... je réfléchissais en même temps que tu...
Oui.
Cette trajectoire avec LP Magazine, cette identité éditoriale, si ce trajet n'était pas juste, au fond, pour arriver dans l'escalier. C'est la question que je me pose, parce que c'est... S'il y avait une scène de crime, dans un roman policier, elle aurait lieu dans l'escalier. Et ça serait le crime de la marchandise. Il aurait eu lieu là. Et peut-être que ce crime, c'est un crime qui est perpétué depuis longtemps et qui se passait déjà au Chabanais. Il y a une intrigue comme ça que j'aime à déplier dedans. Et je crois, j'en suis pas sûr parce que, sincèrement, LP Magazine, c'est devenu une vraie identité. C'est-à-dire que je discute réellement avec elle. C'est devenu un endroit de la vision, en tout cas. Donc, des fois, elle m'amène dans le travail de l'écriture à me retrouver, à ce qu'elle me dise quelque chose que je n'avais pas vraiment, auquel j'avais pas vraiment réfléchi. Et je me retrouve aujourd'hui dans cet escalier pour la dernière robe pour laquelle on est en train de faire la photo de couverture, c'est pour ça qu'on me maquille. On parle que de l'escalier. Et on fait curieusement référence à Adolf Loos et au projet qu'il a dessiné pour Josephine Baker. Et comment l'escalier, ce qui est curieux, parce que l'escalier Chanel, il est antérieur à ce projet-là, de 1 ou 2 ans. C'est-à-dire que la première recension, c'est 1928, et je crois que c'est 1928 aussi le projet pour Josephine Baker. Et il y a tout un système du regard dans cet escalier, et en même temps de la distribution des tâches à l'intérieur d'une maison, et jusqu'à la place de la personne qui pense toutes ces marchandises, qu'il y a un truc, pour moi, mais complètement dingue, quoi. Pour le coup, c'est peut-être voir un petit peu plus... massif qu'une table qui se met à tourner.
Ouais, c'est un escalier qui tourne, c'est pas rien.
Oui.
Mais c'est marrant parce que, en fait, finalement, on a l'impression quand même que tout le système du regard, finalement, a tourné aussi. C'est-à-dire que quand on pense au 19e siècle, on pense à toute la problématique du flâneur. Et là, on n'est plus du tout dans la problématique du flâneur. On est dans la problématique de l'escalier.
Mais aussi, je crois qu'il y a une vraie passion, c'est que, en fait, j'aimerais me voir dans cet escalier. Et c'est une passion littéraire, c'est que j'ai toujours refusé d'aller voir vraiment cet escalier. Et je l'ai...
Donc tu vas le construire.
Je souhaite le construire pour me voir dedans, mais dans mon atelier. C'est je crois que ce pli littéraire qui m'intéresse. C'est l'endroit parfait pour mettre en scène ce crime et de me voir l'acter peut-être. Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi en fait dans toutes les pages de la robe, ou en tout cas les pages de couverture, pardon, où quelque chose, je mets petit à petit en scène quelque chose qui va être là, qui va se passer dans cet escalier, qui est aussi comme les vêtements une copie. J'ai fait copier mes vêtements, mais j'ai envie de copier moi-même cet escalier. Et il y a aussi dans toute cette histoire pour moi quelque chose qui est aussi de l'ordre de la falsification. Et qui est aussi la technique du look, parce qu'on parle des marques, mais bon, je parle aussi beaucoup dedans la robe, dans les discussions que j'ai avec Lauryn Piper, des faux. Ça m'intéresse, le faux, les fausses marques, les falsifications. Je pense que ça fait partie des techniques du look, quelque part. Mmh. Et c'est important qu'il y ait des faux.
Oui. C'est, tu t'appellerais ça des fictions ?
Ben pour le coup, c'est... ça devient compliqué. Oui. Il y a des fictions bien réussies. Hein.
Mais si j'ai bien compris, avant de faire l'escalier, il a fallu... Ben, pour copier un escalier, il faut le connaître. Et comment tu fais pour connaître un escalier ? Enfin, il faut que tu aies des mesures, il faut que tu aies des inclinations de marche,
exactement. Inclinaisons. Et c'est cette personne, justement, qui habitait à la même adresse. C'est pour ça que la robe, pas l'avant-dernière, elle s'appelle Trois Villas du Rivasselon, du Trois Villas du Rivasselon au 31 de la rue Combon. Parce que cette personne m'a finalement décrit comment fonctionnait l'architecture. Il y a aussi beaucoup de photographes qui, donc, avec des documents, je me suis un peu représenté. Mais les mesures de cet escalier ont été prises avec le corps de cette couturière qui copiait mes vêtements. Et le corps de l'ouvrière est devenu la mesure de cet escalier que je suis en train de reproduire. Qu'on voit là, d'ailleurs, dans l'atelier, c'est la mesure d'une longueur d'escalier. Et du coup, c'est avec ses souliers qu'elle a pris les mesures, parce que un escalier peut être avec trois mesures, on peut le reproduire. À la hauteur de marche, à longueur, et puis la longueur de giron. Voilà. Avec ça, on est capable de faire un petit calcul. D'une loi qui s'appelle la loi de Blondel. Donc avec trois mesures, on est capable de reproduire un escalier.
Donc elle t'a fourni les mesures, ça y est, c'est fait.
Voilà.
Et ?
Eh bien, il va falloir que je publie cette dernière robe pour y être complètement dans l'escalier.
Tu disais que tu avais besoin de commencer par les chaussures.
Ouais, toujours par les pieds.
Ouais. Parce que, ça, tu me l'avais montré, ça m'avait un peu fait tomber par terre. Donc, quand on travaille chez Chanel, on a des chaussures Chanel spéciales.
Un uniforme.
Un uniforme. Quand on travaille chez Chanel, on a un uniforme.
On a un uniforme.
Une petite robe noire, j'imagine.
J'entends mon réveil sonner. Il est 8h. On est samedi, je dois aller au travail. Il fait frais et comme je ne ferme jamais les volets, la lumière rentre dans ma chambre. J'habite au 3, rue 3 de la Villa du Rivasselon, au 5e étage. J'habite avec mon chat, qui à ce moment même me donne des coups de tête. C'est mon deuxième réveil, alors je saute du lit. Je lance la bouilloire, je m'empresse d'aller sous la douche, je me sèche en buvant mon café. Je m'habille. J'enfile mes chaussures à talons, j'ouvre la porte, me hisse sur le palier et la referme à clé. Je descends les marches de l'escalier jusqu'à la porte d'entrée de mon immeuble et je me rends à l'arrêt de métro Télégraphe, ligne 11. C'est le début de la journée, je l'organise dans ma tête au rythme des talons sur le sol. Ils font clac, clac, clac. Ils m'accompagnent tout au long de la journée, donnent la cadence à tout ce que j'entreprends. Ce rythme est magnifique, si seulement je pouvais faire écouter à quelqu'un d'autre le son que mes talons Massaro font. Vite, je m'engouffre dans le métro, j'enfile mes écouteurs et je joue sur mon téléphone un morceau de piano. J'aime bien écouter du piano très fort pour couvrir le son des gens du métro. Arrivé à République, je change. Je prends la ligne 8, direction Ballard. J'aime rester debout, prête à sortir, la main posée sur la poignée en métal froid, glissante et brillante de la porte du métro. Elle me relie à quelque chose. Puis, l'arrêt Madeleine, je la relève. Schlack ! Les portes s'ouvrent, je sors. C'est parti, j'enjambe l'escalier du métro. J'arrive rue Cambon. Je marche d'un bon pas jusqu'au 31. Au 31, je passe mon vieux badge en plastique sur lequel il y a encore ma jeune tête de l'époque où j'ai débuté chez Chanel. La grande porte se déverrouille. Je la tire difficilement à moi, j'entre dans l'atelier. Il est 9h30. Arrivé, je dis toujours « Bonjour !» Généralement, je suis seule. Parfois, il y a la femme de ménage. J'appuie sur les deux interrupteurs qui sont sur la gauche de la porte et je balaie des yeux l'atelier. Je pose mon sac sur mon bureau, j'allume les fers à repasser pour qu'ils soient chauds. C'est la première des choses à faire pour pouvoir travailler. Puis, je vais à mon casier pour me changer. C'est peut-être le moment que j'aime le moins, même s'il y a un plaisir ambigu à enfiler un uniforme. J'enlève les habits que je porte et j'enfile mon déguisement. Je pense que cette ambiguïté, c'est ce qui me séduit chez Chanel. C'est une maison qui est un peu comme une vieille dame qu'on adore et qui, parfois, abuse un peu de cette situation. Quoi qu'il en soit, je finis toujours par enfiler cette identité Chanel. Un chemisier en soie bleue, avec son galon et par-dessus. Un cardigan en maille coton. Puis encore, une veste noire avec un galon bleu. Il y a dessus des pins en forme de ciseaux, avec mon nom et un grand camélia. J'enfile un sautoir à perles Chanel. J'enfile ma petite bannette qui est tenue par une chaîne enchâssée d'un cordon en cuir. Dedans, il y a mes aiguilles, mon badge, mon centimètre, mes ciseaux, mon coupe-fil, mes cartes de visite, de quoi écrire, des fiches de prise de mesure, tout un attirail. Et puis, suivant le jour, je mets un pantalon droit, taille haute, avec des talons, une jupe et des ballerines. On a toute une panoplie dans laquelle on peut piocher, mais on doit rester aligné sur l'image de la maison. Après ça, il faut que je me parfume. On a une armoire où il y a tous les parfums Chanel et on se parfume suivant notre humeur. On doit aussi se maquiller, c'est pareil, il y a des codes au niveau du maquillage. Je mets du noir sur mes yeux, je mets du rouge à lèvres rouge, je m'attache les cheveux. Et voilà, je suis prête à être couturière pour la maison Chanel. Pendant ce temps-là, la femme de ménage est passée dans l'atelier. Elle a terminé de passer l'aspirateur et de nettoyer les 2-3 choses qui traînent. Souvent, on parle un peu et elle s'en va. Mes collègues arrivent au compte-gouttes. Toujours un peu en retard, arrivent Alice, Mélanie, Sandrine, Thérèse, Maïlis, la seconde d'atelier de Monsieur Rang, notre maître tailleur, puis Anne-Marie, ma première d'atelier, Lucie, Carlotta et Zarine. Tout le monde enfile sa blouse blanche, sort ses affaires sur son bureau et commence à faire du bruit. L'atelier s'anime, il est 9h50. Il faut que je parte pour le brief avec tous les secteurs de métier des boutiques Chanel pour lesquelles on travaille, celles du 19 et du 31 rue Cambon. Ce matin, elle a eu lieu au 19. Alors, je me rends au 19 rue Cambon, qui fait langue entre la rue Dufaux et la rue Saint-Honoré. Je monte les 4 étages et j'arrive à la réunion. Je retrouve toutes les autres personnes habillées de la même manière que moi, en train de débattre à propos des chiffres de la maison. Je parle un peu de la retouche, de notre agenda, de la possibilité de rendre du travail, des expéditions que les différents vendeurs doivent faire, des livraisons dont ils doivent s'occuper, des clientes qui sont attendues pour la journée. Puis je passe à la boutique, voir si on m'a laissé quelques vêtements dont il faut que je m'occupe, que je recouse une étiquette, un bouton, un fil tiré, une maille décousue ou repasse un chemisier. Des choses très bêtes, toutes simples, mais qui font partie des choses à faire. Je retourne à l'atelier, il est 10h. Il y a Monsieur Rang qui coud des chaînes à la main en bas des vestes. Il y a Martine, la troisième d'atelier, qui parle tout le temps. Rachel, qui commence à reprendre le dos d'une veste. Kenza, qui fait des queues de rats. Rachel, qui arrive en retard, et Elise, qui sort du vestiaire à peine changée. À ce moment de la journée, l'atelier est rempli. Il y a une grande effervescence. Les téléphones sonnent dans tous les sens. Ça court, ça crie. On tire les mannequins, on appuie sur les presses chaudes à repasser, on se parle au-dessus du grondement de la vapeur. Il y a Monsieur Rand, qui rentre des instructions dans une machine. Tut, tut, tut. C'est superbe. La seconde d'atelier, Maïlis, me demande d'aller chercher un zip chez Albert, le magasinier. Zou, je me transforme en un petit rat de la maison Chanel. Je connais tous les différents ateliers et je sais comment y accéder. J'adore. Je prends la veste en question, mon centimètre de couture, et je file dans les couloirs. Je monte au deuxième par des escaliers en bois en colimaçon. J'aime bien cet escalier parce qu'il fait du bruit, il craque. Et c'est rare, ici. Je retrouve Albert qui fait toujours un petit peu la tête. Il s'occupe d'une immense réserve où il y a tant de zips, tant de tissus, tant de choses partout. Mais il les garde jalousement. Je lui demande un zip et donc il râle. Comment je vais faire pour les stocks? Pour lui, tout est un peu compliqué, mais il finit toujours par nous donner ce que l'on est venu chercher. Je prends mon zip, je lui donne un grand sourire et je le remercie. Je redescends par un autre escalier. Cette fois, je vais ressortir par un autre côté pour pouvoir faire le tour du bâtiment au soleil. Alors, je passe par la haute couture et je redescends par les escaliers au miroir. J'aime bien m'engouffrer dans l'escalier et essayer de rattraper mon reflet. Ces escaliers ne font pas de bruit, car il y a une épaisse moquette beige sur les marches. Est-ce que ces miroirs m'ont vu? Et je me retrouve à l'entrée du 31 rue Cambon. Entrée de marbre blanc qui n'a pas changé depuis des années. Les portiers m'ouvrent la porte. Bonjour. Oui, je retourne au travail. Je traverse la boutique, je salue 2-3 personnes et hop, je retrouve l'atelier.
On arrive au bout du maquillage, donc je suis à la dernière étape. Avant la dernière étape, je m'assure que les intensités sont les bonnes, les placements sont les bons, parce que la dernière étape de ce maquillage, ça va être de le recouvrir d'un bas résille. Ça va ? Je vais garder ça. Tu veux garder ta chemise ?
Non.
Question, est-ce que dans cet escalier, il y aura du coup toujours ces miroirs, mais est-ce que c'est un escalier, parce qu'on parlait aussi beaucoup de la question de tout ce qui redevient cyclique, de la question du vendeur, de l'acheteur. Est-ce qu'il a un début et une fin dans cet escalier, ou c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer pas de manière du coup pyramidale et qui va vers en bas, vers le haut? Parce qu'après, on revient aussi vers des questions aussi déifiques, du logo, de cette ascension aussi.
Alors dans ma folie, il est vraiment un espace littéraire, je crois. C'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit où il doit se passer. Peut-être, je rêve que je puisse me retrouver dans mon atelier dans les années 20-30 et que je puisse travestir ma pratique de l'art. D'un coup, je puisse travailler comme travaillait Chanel. Pourquoi ? C'est aussi une question qui s'est posée avec ces conversations avec Lorin Piper Magazine. C'est comment est-ce qu'un travail a vraiment une époque, ou est-ce que je peux le travestir ? Est-ce que je peux me poser les questions de cette époque-là ? Donc, oui, peut-être que cet escalier devrait devenir mon atelier. En tout cas, c'est l'endroit où je pourrais interroger. Ce serait le moment zéro, l'espace où a eu lieu le crime qu'il faut essayer d'élucider. Il faudrait que je le ramène dans mon atelier pour le savoir, et que je me mette à faire une sorte d'archéologie des techniques même, vous voyez, quand on essaie de comprendre un geste. Voilà. Et quelque chose de cet ordre-là qui m'intéresse en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui fabrique des objets. Quoi.
En tout cas, moi, je trouve très intéressant parce que tout ce travail autour de cet escalier, ou cette reconstruction, en quelque sorte, cet escalier me fait un peu penser au travail là de Mike Kelly, The Educational Complex, tu vois, où il a refait ses écoles. Mais néanmoins, il y a une certaine distanciation parce que cet escalier n'est pas vraiment ton histoire, mais tu l'as fait tienne. En quelque sorte, non. Il y a quelque chose comme une volonté de un peu micro-historique, tu vois, un peu, tu parlais du crime, un peu à la Carlo Ginzburg, tu fais parler quelqu'un d'une petite histoire et tu t'appropries un peu comme si ça faisait partie de ta propre biographie, quoi.
Oui, c'est très juste, sauf que ça ne se passe pas dans une université américaine, ça se passe à Paris. Et c'est très juste, mais j'ai choisi ce mot. Enfin, j'ai regardé Mike Kelly énormément. Mmh. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi une identité une question française et européenne. C'est curieux de dire ça. Mais en ayant regardé beaucoup d'artistes américains, j'ai besoin que l'objet central y soit pas très loin, quoi. Et il y a quelque chose de si littéraire à Paris, dans comment Paris a été maintes fois, une petite ville maintes fois décrite, et le fait que je refuse complètement d'aller voir cet escalier. Et que du coup, il devient un objet littéraire, un objet de passion, il devient finalement le personnage principal d'une histoire, qui m'a été médiée par LP Magazine, quelque part. Bon. Mais c'est très juste sur l'idée qu'il y a quelque chose de structurel à, comme chez Mike Kelly, en tout cas, aller chercher dans cet escalier. Et notamment si on a fait attention au texte de cette couturière qui, elle monte par un escalier et elle redescend par un autre. Et cet escalier, on le voit jamais. Ça me fait beaucoup penser à la pièce de Mike Kelly qui s'appelle Hardway, qui est petite maison d'oiseaux. Et il y a ce petit escalier où vont les petites mains, qui est celui à côté du grand escalier qui accueille. Il y a deux escaliers. Il y a une voie facile, une voie d'excellence et une voie pour les travailleurs. Et il y a quelque chose de refoulé dans cet escalier, c'est ces passages-là. En tout cas, si je vais faire une allusion ou un geste vers Mike Kelly, je dirais, oui, en tout cas d'utiliser son vocabulaire, il y a quelque chose de refoulé dans ce petit escalier.
Ça fait aussi apparaître une chose, c'est que quand même l'escalier de la rue Cambon, c'est un lieu de spectacle, même le spectacle de la fabrication des ateliers. C'est-à-dire que tout se fait, en fait, enfin, ailleurs, dans l'arrière-salle, dans les cuisines, dans autre chose, dans l'escalier en bois qui craque, quoi. Mmh. C'est de ce côté-là. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, cet escalier de la rue Cambon qu'on songe, représenter tout de la conception au goodies, comme tu disais tout à l'heure, finalement, ça n'est qu'un lieu de spectacle. C'est un lieu, effectivement, c'est un lieu du logo. Mmh.
Exactement.
C'est un lieu logo.
Mmh. Oui, oui, oui. Il y a derrière ça une idée c'est la scène de quelque chose. Et je sais pas si c'est la scène qui cache réellement ce que fait le capitalisme sur ses corps. Mais c'est un peu dur ces mots-là, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'en tout cas, c'est une scène qui donne pas à voir les corps des ouvrières. Et c'est pour ça que retrouver le corps d'un ouvrière qui refait mes vêtements au départ, sans que je me rende compte, et utiliser son corps pour prendre la mesure d'un morceau d'architecture, fait sens, en fait. Ce corps-là vient de ce petit escalier, qui craque.
Ça me fait vraiment de plus en plus penser à la série Severance. Ah. Hein, où il y a donc tu sais ce que c'est?
Je l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu. C'est pas grave. Moi je suis en plein dedans. Donc c'est des personnes qui ont accepté pour effectuer un certain travail dans une certaine entreprise d'avoir leur personne du dehors et leur personne du dedans. Et en fait, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, ils perdent absolument la notion de ce qu'ils sont au dehors. Mmh. Et réciproquement, il y a une severance, il y a une coupure totale entre la personne qui sont à l'extérieur et la personne qui sont à l'intérieur. Ils ne savent pas si à l'extérieur ils sont hétérosexuels, ils ont quelqu'un dans leur vie, il fait très froid, il neige, il y a probablement un problème de trace aussi, ou de froid, je ne sais pas. Et l'entreprise est évidemment probablement chauffée, mais beaucoup beaucoup plus froide que le dehors. Et effectivement, et il change véritablement de gueule quand il rentre à l'intérieur d'entreprise, de façon de se bouger, de façon d'être, etc., etc. Et en fait, je sens Severance dans ton escalier.
Eh ben, il y a quelque chose de l'ordre de l'interface, en tout cas, qui me fascine, c'est que l'arrangement du travail au XVIIIe siècle, il n'est pas si éloigné de celui des influenceuses qui se travaillent chez elles ou chez eux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'escalier Chanel qui touche à l'idée que sur le même endroit, dans la même structure, il y a l'endroit où on vit, où on pense, il y a l'endroit où on fabrique, il y a l'endroit où on montre, il y a l'endroit où on distribue. Et ces activités-là, hein, aujourd'hui, elles se passent à travers l'interface des réseaux sociaux.
C'est intéressant, ça me fait penser un peu. Tu connais cet analyste du roman de Chaichi Ballard, The High Rise, où on analyse la maison ou les différents états de maison de manière un peu freudienne, psychanalytique, avec le ça, le surmoi ouais. et le moi. Et il y a aussi quelque chose là-dedans, quoi, non ?
Alors ça, j'ai pas creusé. Ouais. Mais je pense qu'on va faire la photo. La photo, il faut que tu me mettes.
Ouais. Bah oui.
Alors ?
Il faut la dernière pièce quand même.
On y va.
Tout ce travail recouvert.
Alors ce travail va être recouvert. Non, parce que moi je savais pas.
Ah. C'est la surprise. Mais oui, il est recouvert. Donc c'est un travail. Exactement. J'aime bien, je vais replacer un petit peu les cheveux, parce que j'aime bien l'effet que ça faisait sous le bas. Ok, on y va. Vas-y. Attends.
Ok,
voilà. Voilà, c'est comme ça.
Ah, mais c'est toi qui l'avais eu.
Oui, c'est moi qui l'ai mis. Mmh. Je vais. Attends. Je vais replacer tout ça. Ça va ? Donc forcément, avec le bas, ça écrase à là. Ouais. Ça écrase un peu, mais c'est bien pour ça qu'on a fait des contrastes aussi forts. C'est pour que ça se voit quand même. J'ai évidemment taché ton Marcel, hein, mais ça, c'est un classique. Oh, attends, je l'ai un petit peu tourné. Bouge pas. Voilà. Mmh. Les cheveux.
Alors là, on est en train de prendre la photo.